La revue de presse, bonjour Nicolas Martin.
Bonjour.
Ce matin, qui perd gagne? C'est qui perd?
Eh bien, vous allez voir, en préambule à cette revue de presse, Guillaume, il faut que je vous précise donc quelque chose d'important, c'est que la plupart de vos éditorialistes en ont ras-le-bol.
Pourquoi les miens? Les vôtres aussi?
Je parle aux auditeurs aussi. Ils en ont au moins autant ras-le-bol que les usagers au nom desquels ils prennent la plume. En tout cas, bref, la grève à la CGT, ça suffit comme ça. C'est même une honte nationale pour Gaëtan de Capelle du Figaro, qui estime que le spectacle qui se déroule à la SNCF depuis une semaine est proprement extravagant. Que voit-on ? L'enterrement en catimini d'une réforme jugée indispensable pour l'entreprise publique, la capitulation en rase campagne du gouvernement face aux syndicats les plus radicaux, la signature à venir d'un gros chèque d'argent public et la poursuite de la grève, qui dit mieux? C'est là, pour l'éditorialiste, une caricature du conflit à la française. Guillaume Goubert, dans La Croix, d'habitude plus mesuré, cache lui aussi mal son exaspération. Le dialogue social en France traverse ces temps-ci une phase de régression, écrit-il. Un simple sentiment de solidarité aurait pu conduire à une suspension des arrêts de travail, là où la population subit les conséquences des inondations. Mais il paraît juste de dire que la CGT, par son maximalisme, fait beaucoup de tort à l'idée de démocratie sociale qu'elle prétend défendre. Analyse partagée ce matin par Dominique Seux dans Les Échos sous le titre « À la fin, ce sont les cheminots qui gagnent ». Dominique Seux fait les comptes. 9 mars 2016, 14 juin 2016, il se sera écoulé presque 100 jours entre la première manifestation contre la loi travail et ce qui sera sans doute la dernière mardi prochain. 100 jours pour rien, s'interroge-t-il. Le premier bilan est pour lui limpide. Cette séquence printanière n'a fait que des perdants. Martial, le gouvernement a tenu sur l'extension du champ de la négociation d'entreprise, mais à l'arrivée, le texte est vidé des mesures qui auraient parlé aux entrepreneurs. Philippe Martinez, quant à lui, a réussi sa médiatisation, mais il n'a pas obtenu le retrait du projet. En obtenant le retrait de la loi, la CGT aurait démontré l'inefficacité du syndicalisme réformiste face à la force du syndicalisme de lutte des classes. Mais, sauf surprise au Parlement, la loi travail ne sera pas retirée, constate Georges Valence dans L'éclair des Pyrénées. Qui perd gagne donc pour Hervé Chabot dans L'Union également. La grève s'essouffle et s'il n'y a plus de justification objective à la reconduction du mouvement, la SNCF en sort déjà essorée puisqu'elle a perdu dans ce grand bazar l'équivalent de ses bénéfices enregistrés l'an dernier. Une situation que résume bien le dessin de Plantu dans Le Monde, daté d'aujourd'hui. On y voit, vous voyez, François Hollande et un syndicaliste, tous deux enterrés jusqu'au cou. François Hollande lui hurle tout jaune « Il faut savoir arrêter une grève ». Le syndicaliste lui rétorque tout rouge « Il faut savoir arrêter une présidence ».
Qui perd gagne également aux États-Unis.
Oui, c'est le bilan que tirent plusieurs éditorialistes ce matin de la fin du processus des primaires avec la victoire annoncée cette nuit d'Hillary Clinton dans le camp démocrate, mais une victoire qui aura coûté bien cher à la candidate à la Maison-Blanche. Ceux qui pensaient il y a quelques mois qu'Hillary Clinton ne ferait qu'une bouchée de l'hurluberlu à la chevelure orange font désormais preuve de plus de prudence, selon Bruno Mèche dans La Montagne. Le chemin s'annonce encore long et parsemé d'embûches pour Bruno Dive de Sud-Ouest qui estime que l'on touche là les limites de l'exercice des primaires. Elles aboutissent à la désignation de deux mal-aimés dont l'un suscite la haine et l'autre le rejet. Donald Trump a même été élu contre la volonté de son parti. On pouvait penser que les primaires aboutissaient forcément à la désignation des candidats plus consensuels et donc mieux à même de l'emporter. Ça n'a pas été le cas cette année aux États-Unis. Un beau sujet de réflexion pour les politologues français.
Et concernant les primaires en France, quelques grammes de culture dans un monde de brutes.
Oui, Nicolas Sarkozy doit prononcer aujourd'hui dans le Nord un discours qu'il qualifie de fondateur à propos de la culture. De mémoire d'électeur, les rapports entre l'ex-président et la culture ont été plutôt houleux, pour ne pas mentionner la princesse de Clèves. On se dit donc qu'il a appris de ses erreurs et qu'il essaye de se faire une virginité en la matière, sauf que, comme le raconte Libération, la culture dont va parler Nicolas Sarkozy, c'est la culture contre le délitement de la communauté nationale, l'art et ses merveilles pour réparer les ravages du communautarisme, une culture très orientée donc politiquement, puisque le petit français de S'en mêler de 2007 déplace sur le terrain culturel le slogan identitaire du candidat de 2012, une antienne qu'il n'est pas le seul à brandir, puisque, comme l'explique Alain Auffray dans son article, Bruno Le Maire explique depuis des mois qu'il faut préférer le combat pour la culture, synonyme d'ouverture aux autres, au repli sur soi qu'implique le débat débat identitaire. Et qu'Alain Juppé a affirmé qu'après les attaques terroristes de 2015 contre notre civilisation, nous avons tous compris que notre culture était notre meilleure arme pour résister. Un meeting dans la grande salle des Halles de la Filature dans la banlieue de Lille, qui a tout d'un meeting de campagne pour la primaire, même si, comme le rappelle le Parisien, Nicolas Sarkozy n'est toujours pas officiellement candidat, ce qui commence à chauffer les esprits dans l'équipe de ses concurrents déclarés. Il fait des meetings, rencontre les militants et fait une vraie campagne de terrain. Je pense qu'une clarification serait utile, s'est agacé Jean-Pierre Raffarin, soutien d'Alain Juppé, tandis que Nathalie Kosciusko-Morizet, qui vient de nous quitter malheureusement, s'en est prise à l'inégalité de moyens entre les candidats. Si je fais des salles remplies de monde et que d'autres font des salles à moitié vides, c'est peut-être aussi qu'il y a une inégalité de talent, répondu élégamment Nicolas Sarkozy devant ses pairs, ce qui me ramène à l'analyse de Bruno Dive sur le processus des primaires qui finissent dans l'impasse et dans l'hystérisation des positions. Un processus à qui perd gagne.